York, New York, ville mythique, la plus peuplée des États-Unis avec ses 8 millions d'habitants, une ville qui n'échappe pas aux conséquences des déséquilibres environnementaux de la planète.
Ville côtière, New York est notamment directement confrontée aux effets de la fonte des glaciers et la montée des eaux. Mais les habitants s'organisent face à ces défis environnementaux. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers votre reportage, Sepi Defarkhande. Bonjour.
Bonjour. Voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, ce à quoi on n'échappe pas quand on marche dans les rues de New York, ce sont les sirènes des ambulances et de la police, et le niveau sonore est très élevé.
Alors vous étiez d'ailleurs parti avec l'idée de travailler au départ sur cette pollution sonore et sur la pollution lumineuse à New York, toutes ces lampes partout.
C'est vrai, mais je dois dire que même si les New Yorkais se plaignent souvent de la pollution sonore, ce n'est ni vraiment une préoccupation pour la municipalité, qui pourtant se veut très soucieuse des questions d'environnement, ni même pour les associations environnementales les plus engagées. Quant à la pollution lumineuse, quand on en parle, les gens ont plutôt l'impression que vous débarquez de la Lune.
Et c'est vrai que depuis la Lune, depuis l'espace en tout cas, l'agglomération de New York est particulièrement visible et lumineuse.
Autre chose qui est visible depuis l'espace ou sur une carte satellite, mais dont on n'a pas forcément conscience, c'est que New York est une ville côtière entourée d'eau qui est soumise à un climat typique de la zone nord-est de la côte atlantique, un climat qui est d'ailleurs proche du climat du nord-est de l'Asie.
Oui, il faut rappeler que la présence toute proche de l'océan Atlantique contribue évidemment à accentuer les contrastes climatiques.
Absolument, et c'est pour ça que les ouragans, les vagues de chaleur, les tempêtes de neige et les orages sont assez courants à New York. Au début du mois de mars cette année, d'ailleurs, on a eu droit à une dernière tempête de neige. Et ces phénomènes risquent de se produire de plus en plus souvent avec le changement climatique, qui est de fait pour les New-Yorkais la première préoccupation environnementale, comme le rappelle Stephanie Tyree, juriste spécialisée dans les questions d'environnement.
Because New York is a coastal city, it's really on the front lines of.
Comme New York est une ville côtière, elle est directement confrontée aux effets du changement climatique. À New York, l'impact de ces changements est plus visible dans le sud de la ville à cause de la météo, mais partout, les températures et le niveau de la mer montent. Et en un siècle, l'impact de ce changement climatique sera visible, probablement même dans les deux prochaines décennies.
Probably within a couple of decades. So the city is formed a task force looking at the impacts of climate change on New York City, and they actually just released a report in February.
La ville a formé une équipe chargée d'observer les impacts de ces changements climatiques à New York. Ils ont rendu un rapport en février qui montre que ces impacts risquent d'être catastrophiques dans les décennies à venir. Les températures vont probablement augmenter entre 4 et 7 degrés Fahrenheit en un siècle, ce qui représente à peu près 0,4 degrés Celsius. C'est comme si on remplacer le climat du nord-est américain par celui du sud. Le climat de New York va devenir comme celui d'Atlanta ou de la Géorgie à la fin du siècle. Il va faire très, très, très chaud.
It's going to be very, very hot. That's a particular issue for New York because we are.
Et le réchauffement affecte encore particulièrement New York parce qu'il s'agit d'une zone urbaine très dense. Les températures dans la ville sont plus élevées que dans les campagnes environnantes, notamment à cause du béton qui absorbe la chaleur.
There's so much concrete in the city.
Et il faut rappeler, c'est bien que New York, avec plus de 8 millions d'habitants, est la ville la plus peuplée des États-Unis.
Oui, mais elle n'a pas été conçue à l'origine pour être si densément peuplée. Et les orages répétitifs et les pluies violentes risquent de mettre à mal les canalisations de la ville, ce qui constitue un autre problème, comme nous l'explique James Subudi de l'association We Act, qui œuvre pour la justice environnementale à Harlem, au nord de Manhattan.
The Hudson River is actually an estuary at this point. An estuary is where.
Ici, à ce niveau, on se trouve à l'estuaire du fleuve Hudson. Un estuaire, c'est un endroit où les eaux du fleuve et de la mer se mélangent. L'un des problèmes les plus criants de justice environnementale et de pollution des eaux pour le fleuve Hudson et pour tous les cours d'eau alentour, c'est que, tenez, vous voyez là, c'est une installation de traitement des eaux d'égout. Eh bien, un des problèmes, c'est que quand il pleut beaucoup à New York, les installations de traitement des eaux d'égout n'ont pas la capacité de drainer à la fois les égouts et les eaux de pluie. Parce que les canalisations pour les égouts et les eaux de pluie sont les mêmes, tout ça va dans la même canalisation. Quand New York a été construit, les urbanistes et je pense la municipalité n'ont pas anticipé que la ville allait grandir à ce point, qu'elle aurait de telles dimensions. Du coup, on a ces installations qui ne peuvent pas absorber plus d'eau et on a ce qu'on appelle un débordement des égouts combinés, qu'on désigne sous le sigle CSO. Ce qui se passe, c'est que quand il pleut trop, les installations d'égout débordent et déversent les eaux d'égout dans les rivières et donc vont les polluer. C'est un problème majeur pour la ville de New York et ses canalisations.
The sewage and the rainwater into the rivers, polluting the river. This is a huge issue for New York City and its waterways.
Les désordres climatiques ont donc un impact direct sur New York. Ils menacent les structures mêmes de cette ville entourée d'eau.
Alors d'ailleurs, les scientifiques de la NASA et de l'Université de Columbia à New York qui travaillent sur les impacts de ces changements climatiques dans les zones urbaines prévoient ce qu'ils appellent des houles cycloniques, c'est-à-dire une augmentation importante du niveau de la mer pendant un cyclone, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et si ce phénomène se produit, des zones entières de la ville risquent de se retrouver sous les eaux, en particulier le sud de Manhattan. Mais le premier effet choc des changements climatiques dans la ville, ce sont les canicules qui frappent en particulier les personnes les plus vulnérables. Et à New York, l'un des quartiers où la population est particulièrement exposée aux effets du réchauffement climatique, c'est Harlem. Harlem où les revenus des habitants sont encore bien en dessous de la moyenne des New-Yorkais. Et Stéphanie Tyree s'inquiète des effets des canicules, mais aussi de la montée des eaux sur cette population de Harlem.
For our community members in northern Manhattan, this is a particular concern because
pour notre communauté à Harlem et au nord de Manhattan, c'est une vraie préoccupation parce que les gens d'ici ont moins d'espace vert. Souvent, ils n'ont pas de climatisation et quand plusieurs jours de suite, les températures dépassent les 33 degrés, et la chaleur peut provoquer des morts. C'est par exemple ce qui s'est passé à Chicago quand il y a eu une grande vague de chaleur en 2005. La canicule a fait des centaines de morts, surtout parmi les personnes âgées d'origine afro-américaine ayant peu de revenus. C'est pour ça que nous sommes, ici à New York, particulièrement attentifs au sort de cette partie-là de la population face au changement climatique. Nous sommes aussi très inquiets par la montée des eaux. On pense que cette montée des eaux atteindra au minimum entre 30 et 60 cm à New York en un siècle. Ce sont les prédictions les moins alarmistes. L'équipe municipale, elle, prévoit une montée entre 1,10 m et 1,40 m. Pour New York, qui est une île, une montée de 30 cm aura des conséquences majeures. Avec les inondations, des parties entières de la ville seront sous les eaux. Si la mer monte de 1,40 m, je ne sais pas de quoi la ville aura l'air. La montée des eaux a aussi un impact beaucoup plus immédiat parce qu'elle provoque aussi des inondations dues aux orages et aux tempêtes. Quand la mer monte, les tempêtes qui se produisent de temps à autre deviennent plus violentes et les habitants du bord de la mer deviennent des cibles. Et l'infrastructure de la ville se trouve en danger.
Pour
We Act, notre association, c'est un vrai problème puisque l'est de Harlem se trouve précisément au bord de la mer. À cause de son emplacement géographique, cette zone est très inondable et ses habitants sont les premiers concernés. Ils auront très peu accès à des zones sécurisées. On parle là de centaines de milliers de personnes qui seront victimes des inondations sans nulle part où aller, sauf si la ville commence très vite à prendre des mesures pour s'adapter.
Public Enemy, non, c'est pas du vent sur RFI, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur la côte est des États-Unis, à New York, une ville qui commence à souffrir des conséquences du réchauffement climatique, c'est pidé.
Oui, quand on énumère, qu'on évalue, qu'on imagine les risques que les changements climatiques impliquent, on se prend à désespérer. Mais pendant que les études scientifiques sur les conséquences de la fonte des glaciers et de la montée des eaux se poursuivent, WeAct, une association locale créée à Harlem en 1988, continue, elle, de lutter au quotidien pour la justice environnementale. Sa fondatrice, Peggy Shepard, qui a reçu de nombreuses récompenses pour son action en faveur de l'environnement et de la justice environnementale, rappelle les débuts de l'association.
L'association WeACT a été fondée parce que la communauté, les habitants de Harlem, avaient besoin de s'organiser pour lutter contre des installations polluantes. Les gens avaient besoin de savoir ce que ces installations représentaient, quel était l'impact de leurs émissions polluantes sur leurs familles, sur leurs proches. Il fallait une conscience et une mobilisation politique pour obliger la ville à investir dans des solutions. Pendant 8 ans, nous avons fait campagne pour organiser les habitants et pour essayer de rendre la municipalité responsable de ces décisions. Nous avons mené une action en justice contre la municipalité et nous avons gagné le procès, ce qui a constitué les premiers fonds de l'association et a permis à WeACT de lancer de nouveaux projets, d'institutionnaliser l'idée de justice environnementale et d'avoir les ressources nécessaires pour travailler avec les habitants de Harlem sur différents projets environnementaux.
Alors, comme nous venons de l'entendre, les questions environnementales sont loin d'avoir toujours été un enjeu pour la municipalité de New York.
Effectivement, comme l'évoquait Peggy Shepard, en 1988, l'association WeACT a même intenté un procès à la ville pour sa gestion d'une installation de traitement des égouts à Harlem. La justice a donné raison à l'association et a contraint, en 1994, la municipalité de New York à verser plus $1 million à WeACT. James Subudi, coordinateur et responsable du développement durable, précise dans quel quartier et comment fonctionne la première organisation de justice environnementale de la ville de New York et l'une des rares qui soit fondée et gérée par la communauté noire.
WeACT est une association locale non lucrative fondée il y a 20 ans. Notre mission, c'est de donner des moyens d'agir et de combattre l'injustice sociale et le racisme vis-à-vis de la population de couleur et à faible revenu, et aussi de plaider pour une politique de santé publique au nord de Manhattan. Le nord de Manhattan, eh bien, ce sont toutes les rues au-dessus de la 110e à l'ouest. Nous réalisons notre mission en organisant les habitants, les impliquant dans la politique publique. Je vous donne un exemple. En ce moment, je travaille avec des parents dans des écoles à Harlem pour réfléchir aux problèmes d'accès à l'alimentation dans leur quartier, dans leurs écoles. Nous réfléchissons sur le problème de l'accès inégal à une alimentation saine dans le quartier. On identifie les problèmes que les gens ont et puis on cherche des solutions. Par exemple, un des problèmes que j'entends souvent qui revient ici à Harlem, c'est que les gens n'ont plus de supermarchés. Les supermarchés ferment et ceux qui restent n'ont pas de produits de qualité ou de légumes. Et en plus, les prix sont élevés. Et ce que nous faisons pour résoudre ce problème, c'est de mettre autour d'une table les habitants de Harlem, les officiels du district, de la santé et de l'urbanisme, les officiels de la mairie et puis les politiques, pour qu'ils discutent ensemble et trouvent une solution qui provienne des habitants, pour faire revenir par exemple ces supermarchés dans le quartier et empêcher ceux qui restent de fermer. Un autre exemple, c'est d'organiser les habitants pour empêcher l'installation d'équipements polluants dans le quartier.
Alors, CPD, la démarche de cette association permet de montrer que les questions de justice sociale et d'environnement, finalement, sont liées.
Oui, ce souci d'environnement, ce n'est pas l'apanage des plus favorisés, bien au contraire. Pendant longtemps, Harlem a été considéré un peu comme le dépotoir de Manhattan. C'est là que se trouvaient, par exemple, 6 des 7 dépôts de bus diesel de tout New York. C'est là que se trouvait aussi la seule station maritime ouverte 24 heures sur 24, où des convois entiers de déchets étaient déposés pour être acheminés vers d'autres États.
C'est aussi Harlem qui a le plus fort taux d'asthme.
Oui, et c'est en montrant le lien entre ces réalités, entre les questions de santé publique et de pollution de l'air ou de manque d'accès aux produits frais, que l'association a contribué à faire naître chez les gens une conscience des problèmes environnementaux plus vaste. Et grâce à l'implication de plus en plus forte de la population de Harlem dans son environnement, un projet de parc en front de mer vient d'être réalisé. Et en attendant de sensibiliser les gens au problème de la montée des eaux, WeAct a déjà réussi à rendre la rive délaissée de l'Hudson aux riverains, et James était très fier de m'emmener visiter ce parc.
Eh bien, nous sommes dans la 125e rue à l'ouest de Harlem. C'est le cœur de Harlem, le quartier commercial. Et nous nous dirigeons vers le West Harlem Pierce Park. C'est un parc qui longe les rives de l'Hudson. C'est un nouveau parc qui a été inauguré il y a quelques mois. Alors, ce parc était à l'origine un parking, le parking d'un supermarché qui est de l'autre côté de la rue. Et WeAct, notre association, a organisé une campagne de rencontres avec les représentants, les personnalités clés de Harlem, pour transformer ce parking en quelque chose, en un espace dont les gens auraient vraiment envie. Et ça, d'une certaine manière, c'est une démarche participative qui implique les gens dans leur environnement, mais c'est aussi une démarche en faveur du développement durable, pour transformer un espace abandonné en quelque chose dont les gens veulent vraiment, au lieu d'avoir un promoteur qui vienne construire des hôtels ou des appartements dont les gens ne veulent pas forcément, et qui les empêcherait d'avoir accès à la rive, au bord de l'eau. WeAct s'est également engagé auprès des habitants de Harlem et de leurs représentants pour empêcher la réouverture d'une déchetterie juste au nord du parc. Et je pense que cet engagement, là aussi, a eu du succès, car la déchetterie ne va pas rouvrir. Le projet a commencé en 1998 et 10 ans après, on a ce parc magnifique. C'est la renaissance des rives de l'ouest de Harlem. Les gens ici font du vélo, ils viennent déjeuner au bord de l'eau, il y a aussi des gens qui viennent faire du jogging. Cet été, je crois qu'il y aura beaucoup de monde. Je crois que le parc sera inauguré avec une grande cérémonie où le maire de New York et tous ceux qui ont participé à ce projet seront présents. La cérémonie devrait avoir lieu début mai.
And all the people who helped make the project in this park possible sometime around in early May.
Ce parc des rives de l'Hudson est un bel exemple de coopération réussie entre la municipalité, la population locale et ses représentants, Cépidé.
Oui, mais la vigilance à Harlem reste de mise parce que la législation, la politique municipale et les décisions qui sont prises au niveau de l'État de New York ne sont souvent pas adaptées aux besoins des populations locales, comme James nous le rappelle.
Harlem has...
Harlem a l'un des taux de diabète et d'obésité les plus forts de New York. Et je pense que c'est en partie dû au manque d'accès à de la nourriture saine dans le quartier. Comme vous l'avez remarqué en descendant la rue, tout ce qu'on a vu, c'était des fast-foods. En fait, la municipalité donne des incitations fiscales à ceux qui veulent ouvrir des fast-foods au nord de la 96e rue.
Pour fast-food restaurants to locate above 96th Street.
Pourquoi ils font ça? Eh bien, cette politique date des années 70 pour créer des emplois dans le quartier. Pas les meilleurs emplois, évidemment, hein, travailler dans les fast-foods. Il pourrait avoir une politique de ce genre pour encourager la vente d'une alimentation saine au nord de la 96e. Il pourrait faire la même chose.
You know, citing healthy food markets above 96th Street. They could do the same thing.
Et cette contradiction entre la politique fiscale en vigueur, les besoins des gens et les urgences écologiques existe encore dans beaucoup d'autres domaines.
Oui, on l'a dit, New York, de par sa situation de ville côtière, sera directement confrontée aux effets du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Or, chacun le sait, pour limiter ce réchauffement à l'échelle de la planète, il faut réduire de manière conséquente les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, il faudra notamment limiter l'utilisation des voitures et développer les transports en commun.
Oui, surtout qu'aux États-Unis, hein, c'est pas que dans les films, c'est dans la réalité, les grosses cylindrées et les 4x4 sont la norme.
Malgré ça, l'année dernière, un projet de limitation de la circulation au centre de Manhattan, un projet pourtant soutenu par la municipalité et les associations environnementales, a échoué parce que les autorités de l'État de New York se sont opposées à celles de la ville de New York. Aux États-Unis, il faut savoir que l'existence de différents niveaux de pouvoir ne rend pas toujours possible l'application d'une politique cohérente.
Alors le président Obama, lui, s'est maintes fois exprimé sur la nécessité de changer les normes de l'industrie automobile, de produire des véhicules moins polluants et de développer les transports.
Absolument. Dans le cadre du plan de relance économique, il y a des fonds alloués au développement des transports publics. D'ailleurs, WEACT, comme d'autres organisations, tente de veiller à ce que les législateurs surveillent l'utilisation faite de ces fonds publics, comme le rappelle Peggy Shepard.
We're going to be working over the next year around the transportation reauthorization.
Nous allons examiner l'année qui vient le projet de loi sur les transports. Le Congrès va attribuer des milliards de dollars à des projets de transport public partout à travers le pays. Nous voulons nous assurer que ces projets prennent en compte l'équité environnementale, que l'argent utilisé tienne compte des trajets quotidiens du plus grand nombre. Il faut affecter moins d'argent à la construction des routes et des autoroutes. Nous voulons faire en sorte que cet argent produise une croissance équitable et serve entre autres aux problèmes des transports quotidiens et d'autres problèmes encore.
Paradoxalement, au moment où le gouvernement fédéral à Washington s'engage pour l'environnement, à New York, les prix des transports en commun, des billets de métro, augmentent. Et certaines lignes de métro et de bus vont cesser de fonctionner. Au 31 mai prochain, le prix du ticket de métro passera de 2 dollars actuellement à 2 dollars et demi, ce qui est une augmentation conséquente.
Oui, ça fait cher, surtout si on a des enfants et qu'on multiplie. Mais le problème, c'est que le réseau de métro new-yorkais est dans une situation financière difficile, c'est ça ?
En fait, les responsables, le conseil d'administration de la MTA, le réseau de transport métropolitain de New York, affirment que ces mesures, c'est-à-dire la hausse du prix des billets et la suppression de certaines lignes, sont la seule façon d'éviter la ruine financière du réseau. Il faut savoir que la MTA a beaucoup perdu d'argent avec la chute de Wall Street, notamment parce que certaines sociétés financières de la bourse l'avaient encouragé à s'endetter. Mais la plupart des sénateurs de l'État de New York, eux, s'opposent à tout projet de péage sur les ponts qui relient les différentes îles et quartiers de New York, même parmi les démocrates. Ils partent du constat qu'une majorité d'électeurs trouve injuste que les automobilistes paye pour les usagers des transports en commun. Et pourtant, alors que 90% des Américains se rendent au travail en voiture, la plupart des New-Yorkais, eux, utilisent les transports en commun.
Malgré ça, le réseau métropolitain ne sera pas sauvé par des fonds récoltés grâce aux péages. Et ce sont les usagers du métro qui sont finalement pénalisés par la situation financière du réseau métropolitain.
Oui, ce qui est frappant à New York, ce sont les extrêmes. Il y a d'une part, chez les uns, une conscience très aiguë des défis environnementaux, une connaissance très fine des enjeux. Presque dans tous les quartiers, il y a des restaurants soucieux de servir des produits locaux dont l'impact carbone est réduit. On utilise d'ailleurs souvent ce vocabulaire pour décrire notre rapport à la nature. Et de plus en plus, on trouve des marchés locaux, des magasins bio. Mais de l'autre côté, chez d'autres, il y a un refus total de s'impliquer, de tirer des conséquences et de se projeter dans l'avenir. Et souvent, le débat devient tabou. Il y a aussi une superposition des pouvoirs bureaucratiques, parfois en conflit. Un exemple flagrant de ces contradictions à l'échelle des États-Unis, cette fois, c'est l'usage que l'État du Texas veut faire des millions de dollars qu'il a reçus du gouvernement fédéral dans le cadre du plan de relance économique. Les représentants du Texas veulent consacrer 181 millions de dollars de ces fonds fédéraux pour construire une autoroute qui traverse et donc détruit une prairie qui a été préservée pendant des décennies. Et tout cela alors que la politique nationale du président Obama est explicitement contre ce genre de projet. Mais chacun des États des États-Unis ont un certain degré de liberté dans l'utilisation d'une partie de ces fonds et Washington, pour le moment, ne peut pas contrer ces projets censés, selon leurs promoteurs, créer rapidement des dizaines de milliers d'emplois.
Alors c'est vrai qu'il faut des bras hein, pour construire des routes, mais pour poser des rails, pour les rénover, pour les entretenir, il faut aussi embaucher du monde.
Et le transport aux États-Unis se fait essentiellement par la route et, ou en avion. Et pour inverser la tendance, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il y a du travail en perspective. Même aux alentours de New York, le réseau ferroviaire n'est pas très pratique et c'est pourtant là qu'il est le plus développé. Mais il y a une dizaine de jours, le 16 avril dernier, plus précisément, le président Obama a annoncé un vaste projet national de trains à grande vitesse, notamment pour désengorger les aéroports. Et il a cité en exemple le réseau ferroviaire français. Donc l'espoir est là, mais il faut continuer au niveau local à rester vigilant et à New York, paradoxalement, les gens doivent se battre pour que le réseau métropolitain, qui est un des plus importants au monde, ne périclite pas.
Merci Cépidé pour ce reportage. C'est pas du vent s'intéressera à l'état du monde animal demain avec le fondateur de la Ligue de la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, et le naturalisme, Guilhem Le Saffre.
En attendant, vous pouvez toujours nous écrire sur cestpasduvent@rfi.fr. Nous vous répondrons et nous poserons vos questions à nos invités. À demain donc, même planète, même heure. Mm-hmm.